Bonjour, chers auditeurs et auditrices, bienvenue à Culture Soccer. Aujourd'hui, émission spéciale entre-saison. On va vous expliquer comment marche l'entre-saison en MLS. Pour ce faire, on a la référence MLS francophone qui est écrite sur le site de la MLS officielle, Mathias Vanas. Bonjour Mathias.
Bonjour à tous.
Comment vas-tu?
Ça va bien, au milieu de la neige.
Ouais, je suis dans le même pétrin que toi. On a également, comme à l'habitude, Antoine. Bonjour Antoine.
Salut les gars, bonjour. Et un salut de Sicile où il fait 20 degrés et où je me balade en t-shirt. Je pense à vous sous la neige.
Donc aujourd'hui, là, on va vraiment parler de toutes sortes de sujets, là, que ce soit le repêchage d'expansion, les échanges, les joueurs libres, la Discovery List. Donc Mathias, on a vraiment beaucoup de sujets à parler. Faut y aller directement dans le vif du sujet. Un événement qui s'est déjà passé il y a environ une semaine ou deux, le repêchage d'expansion. Peux-tu nous en parler pour éclairer nos auditeurs un peu là?
Ouais, comme tu as dit au début de l'émission, on va parler un petit peu de tous ces sujets-là. Juste une petite précision au début aussi, c'est que parfois, quand on va rentrer dans des détails, ça va être des détails qui sont les règlements de 2017, parce que parfois, peut-être qu'on va donner des chiffres et des choses comme ça. Les règlements de 2018 ne sont pas sortis, donc pour la saison prochaine, il y aura peut-être des petites différences, mais les principes restent toujours les mêmes. Le repêchage d'expansion, lui, c'est déjà fait, et c'était évidemment les bons règlements qui ont été utilisés. Et ça, ça permet tout simplement à une nouvelle équipe, ça c'est la théorie en fait. La théorie, c'est quand il y a une nouvelle équipe qui arrive en MLS, on lui dit écoute, pour commencer à bâtir ton effectif, tu peux aller chercher des joueurs dans les autres équipes. Avant, ils pouvaient aller chercher 10 joueurs au total, maintenant ce n'est plus que 5 et ils peuvent aller en chercher au maximum un par équipe. Alors évidemment, ils ne peuvent pas aller chercher qui ils veulent non plus. Ce serait trop facile, on irait chercher tous les meilleurs et puis les autres diraient ouais, mais c'est pas. Donc, chaque club a aussi le droit de protéger 11 joueurs, liste à laquelle s'ajoutent d'autres joueurs qui ont certaines clauses dans leur contrat, qui ont certains statuts, notamment les joueurs formés au club. Et donc, parmi les joueurs qui ne sont pas protégés, les clubs peuvent aller chercher du monde. Et donc, c'est ce qu'a fait le Los Angeles FC. Mais on a vu cette année, et là, je vais vous laisser enchaîner là-dessus et donner votre avis, que ce soit Minnesota, Atlanta et maintenant Los Angeles. L'objectif, c'est pas forcément d'aller chercher des joueurs pour soi, mais ça devient un gros marché de commerce.
C'est ce que j'allais te demander, oui. C'est quelque chose qui a changé par rapport à l'année où New York City FC ou Orlando étaient passés. Là, c'est vraiment plus dans l'optique de changer, trader les joueurs qu'on a pris dans la draft pour essayer d'en acquérir des nouveaux, comme a fait LAFC avec Laurent Simon.
Oui, exactement. Je pense que ça, c'est l'exemple le plus frappant. Donc, Rancimont, on pouvait se douter qu'il ne serait pas protégé. Los Angeles était intéressé. Et donc, ils ont discuté avec Montréal. Ouais, qu'est-ce que vous voulez contre Simon? Quel joueur non protégé vous voulez contre Simon? C'était ça, regardez la liste. On vous en donne deux, nous on en prend un. Et puis c'est bon. Puis c'est ça qui est arrivé. Donc maintenant, est-ce que l'esprit de ce repêchage d'expansion est vraiment encore respecté ou non? Je me juge.
Et selon toi, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été pris par LAFC qui vont être titulaires avec, je pense, au gardien de but Tyler Miller ou encore Urrenia?
Ouais, Urrenia, j'ose espérer. Tyler Miller, j'y crois pas. C'est plutôt un gardien de réserviste. Si ça avait été Minnesota, par exemple, je me disais, peut-être, ils sont modestes. Mais là, on voit que Los Angeles fait, et c'est pas du tout modeste. C'est plus justement ressemblant à ce qu'a fait cette saison qu'est-ce que fait Minnesota. Donc, Urrenia, oui, normalement, il devrait être titulaire et quand même international costaricien. Il y a des grosses chances qu'on le voit à la Coupe du Monde. Mais à part ça, déjà, il en reste plus que trois. Il y a le gardien Tyler Miller qui, lui, a été réservé à Seattle. Il y en a deux donc, qui sont partis à Montréal. Donc, de nouveau, ce serait un peu dans la moyenne, vu les joueurs que Minnesota et Atlanta ont été cherchés. Il n'y a pas beaucoup qui sont titulaires. Donc, comme je le disais au début, en théorie, ça sert à commencer à bâtir l'équipe, mais ce n'est plus forcément avec les joueurs qui sont choisis. Et ça ne pose plus non plus l'assise de l'équipe. Parce que quand on voit, par exemple, quand Montréal est entré en MLS, ils ont été chercher des joueurs comme Justin Mapp, comme Davy Arnaud. Donc, il y a quand même une différence, une grosse différence. On a vu l'évolution en quelques années, ça a complètement changé.
Ouais, j'allais te demander, Mathias, si est-ce que pour toi c'est quelque chose qui doit rester en MLS, ce genre de cette draft, parce qu'on a vu que pour pas mal de clubs, c'est problématique car ils veulent il faut protéger que 11 joueurs et il y a pas mal de, je pense à Seattle, Osvaldo Alonso n'était pas protégé par exemple, et donc ça crée pas mal de conflits, j'imagine, au sein du club et au sein de l'effectif. Donc pour toi, est-ce que c'est quelque chose de sain pour la MLS?
Disons que vu que l'esprit n'est plus forcément respecté, il faudrait peut-être trouver une autre solution. Parce qu'on voit que les nouveaux clubs, en tout cas deux sur trois là, des derniers, basent le cœur de recrutement sur du recrutement à l'étranger. On voit Atlanta, c'était avec des joueurs sud-américains. Los Angeles, là, il y a des Égyptiens, il y a des joueurs qui viennent d'un peu partout en Europe. Et même en Amérique du Sud. Honnêtement, est-ce que ces clubs ont besoin de ça? Parce que ça traduit, en fait, ce qu'il faut voir aussi quand on réfléchit un peu plus loin, c'est que ça traduit surtout les progrès de la MLS. Parce qu'avant, les joueurs qu'Atlanta était cherché, que Los Angeles est en train d'aller chercher, les clubs de MLS, les nouveaux, ils ne pouvaient pas vraiment se le permettre. C'était, quand on en parlait à ces joueurs, c'est un club qui n'a jamais joué, et en plus, ils jouent en MLS, qu'est-ce que je vais aller là-bas? C'est un risque. Maintenant, la perception est totalement différente. Donc, ils peuvent bâtir les bases de leur effectif en attirant d'autres mondes. Donc, ils n'en ont plus vraiment besoin. C'est vrai que c'est toujours sympathique de les aider quand même d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il faudrait peut-être un petit peu revoir la forme.
Ouais, c'est vrai, parce que je trouve depuis les dernières années, là, le repêchage d'expansion sert beaucoup plus à donner des ressources aux nouvelles équipes pour pouvoir faire des échanges. C'est vraiment principalement pour ça. Ou sinon de donner accumuler du banc là, pour l'effectif. Parce que souvent les joueurs non protégés sont pas des cadres dans leur équipe. Là. Ben, c'est ça le but de protéger des joueurs. Là. Donc c'est plus des joueurs de soutien ou d'autres. C'est ça.
Ouais, et puis même quand tu as des cadres qui sont pas protégés, parce qu'il y en a toujours, mais tu as parlé d'Alonso, il y avait Betachour, des équipes, évidemment, des équipes qui vont très loin, qui terminent très haut, comme Toronto, c'est le meilleur exemple, évidemment. Ils avaient plus que 11 titulaires potentiels, donc forcément, tu avais quand même des bons joueurs qui ne sont pas protégés, et bien ils sont pas choisis, comme Hustedt de Vancouver, gardien, on parlait, attends, tu as le choix entre le deuxième gardien de Seattle et un type qui a joué plusieurs saisons à Vancouver, et tu vas chercher. Pourquoi tu vas chercher le deuxième gardien de Seattle? Donc, il y a aussi des considérations salariales. Il y a aussi, on est tous d'accord que les cinq meilleurs joueurs qui étaient disponibles au repêchage d'expansion n'ont pas été choisis.
Il n'y a même peut-être pas un dans la liste. En fait. Dans les cinq, il n'y a peut-être pas. Enfin, il n'y a même pas un joueur du top 10 de la liste qui a été choisi.
Voilà.
Et d'ailleurs, depuis le début, là, on parle du LAFC. Ils se sont renforcés en allant chercher Walker Zimmerman grâce à de l'argent d'allocation. Je sais que tu voulais en parler de l'allocation. Comment ça marche, cette liste-là? C'est un classement, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, en fait, juste pour expliquer un peu à nos auditeurs, je vous ai envoyé une liste de sujets et elle est dans un certain ordre parce que en pratique, même si y a pas de, en théorie, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais en pratique, c'est comme ça que le recrutement marche en MLS dans le sens où vous allez voir que plus on va arriver à la fin, moins il y a de critères pour aller recruter un joueur. Et donc, cette liste d'allocation, repêchage d'expansion mis à part, c'est ce qui vient au top de la liste. Donc, c'est des joueurs qui sont déjà prédéterminés que les clubs peuvent aller chercher. Alors, il y a trois types de joueurs différents dans cette liste-là, qui sont des internationaux américains qui évoluent à l'étranger, qui sont aussi en fait, en gros, c'est juste pour résumer, c'est des gros noms qui ont un lien avec les États-Unis ou la MLS. Donc, il y a les internationaux américains qui évoluent à l'étranger. Il y a des joueurs qui ont évolué en MLS et qui sont partis pour une somme de transfert supérieure à 500 000 dollars. Et aussi des espoirs américains. J'allais dire Christian Pulisic, c'est un peu l'exemple qui regroupe plusieurs catégories parce qu'il était déjà dans la liste avant de devenir un nom important dans son club et en équipe nationale. Et maintenant, il l'a dépassé, mais tu as des joueurs aussi qui sont partis comme Andy Nayer, etc. Et donc, les joueurs de cette liste, ce n'est pas n'importe qui peut aller les recruter. C'est en fait, il y a un ordre. Donc, chaque club a un ordre de priorité pour aller chercher des joueurs. Donc, par exemple, Dallas en tête de liste. Et en fait, non, Dallas qui est maintenant en tête de liste est prioritaire pour aller chercher un joueur parce que le Los Angeles FC était en tête de cette liste-là. Donc, c'est lui qui pouvait aller chercher en premier un joueur de cette liste. Et il a échangé cette place de tête contre Dallas. Donc, maintenant, Dallas est le premier s'il veut un de ces joueurs-là qui veut y aller.
Et on peut trader cette place dans cette liste d'allocation contre un joueur, contre de l'argent pour un salaire ou ce genre de choses.
Oui, tout c'est en fait en MLS, à part certaines exceptions dont on parlera certainement plus tard, notamment à certaines dates qui sont en dehors des périodes de transfert où on peut pas échanger de joueur. En MLS, en gros, tout s'échange. Donc c'est pas compliqué. Les places dans les listes, les joueurs, les ordres de priorité, tout, en fait, tout est est échangeable.
Et une fois qu'on a utilisé notre place, on revient au fond de la liste.
Au bas de la liste, exactement. Ouais. Puis là, ça remonte, exactement.
Ah, donc, la liste d'allocation, ça dit, c'est comme si les équipes auraient leur menu, ils choisissent, ils font, ah, je veux ça, et après ça, ils retournent en arrière, le suivant choisit son joueur, et ainsi de suite.
Exactement. Et, mais en fait, ça ne se fait pas chacun à son tour. C'est que c'est un ordre de priorité. Donc, c'est quand même des noms intéressants. C'est des noms importants puisque c'est des nationaux, grands espoirs ou alors c'est des joueurs qui sont partis de la MLS pour une grosse somme de transfert. Donc, c'était déjà des vedettes en MLS ou en tout cas des noms réputés. Donc, ça donne exactement une priorité à certains clubs pour aller chercher ces joueurs-là avant les autres. Mais c'est pas « Ah tiens, toi qui tu veux », évidemment. Si quelqu'un est intéressé pour aller chercher Pulisic, par exemple, ben, on va passer la liste. Si Dallas n'est pas intéressé, c'est le LA Galaxy en deuxième, si je ne me trompe pas. Là, on va dire au LA Galaxy « Tiens, ben, là, tu peux aller chercher Pulisic ». Mais si le LA Galaxy veut Pulisic et que Dallas le veut aussi, Dallas va dire « Non, moi, je suis devant sur la liste. C'est moi qui peux aller le chercher, c'est moi qui ai le droit de priorité pour aller chercher. »
Si je suis cinquième et je vois un certain joueur, les quatre devant moi ont un droit de veto sur ce joueur-là.
Exactement. Donc, pour être sûr, parce que, évidemment, parfois, le club qui est devant, il n'est pas intéressé, mais il va faire semblant. Et donc, pour être sûr, c'est toujours mieux de remonter à la première place ou à la deuxième, quand même, assez souvent, il y en a qui vont chercher des joueurs aussi assez facilement. Et donc, c'est aussi, ça permet aux joueurs d'acquérir quelque chose en échange. Et là, on l'a vu du côté du Los Angeles FC avec Walker Zimmerman. Los Angeles était intéressé par Zimmerman. Ils étaient intéressés par personne sur la liste. Dallas, j'imagine que s'ils ont accepté de remonter à la première place, bah en fait, non, s'ils ont accepté de remonter à la première place, il y a deux options. La première, c'est parce qu'ils sont intéressés par quelqu'un sur la liste. Et là, ils sont là et hop. Donc, ça serait peut-être plutôt eux qui seraient allés voir Los Angeles en disant « Ah, nous, on veut remonter à la première place parce qu'on veut recruter un de ces joueurs-là. Comment on peut s'arranger ?» Mais l'autre option aussi, c'est que Dallas se dit « On va faire le même coup que Los Angeles. Quand il y aura un autre club qui serait intéressé à quelqu'un sur la liste, comme nous, on est en premier, on aura une monnaie d'échange, cette place-là, et on ira récupérer un joueur. » Vu que ça permet à un club d'aller chercher un très bon joueur, c'est une place qui vaut beaucoup et donc une monnaie d'échange très intéressante.
Mais donc, c'est quelque chose de assez MLS, c'est le fait que, par exemple, si Pulisic ou Matt Miazga ou un joueur comme ça veut revenir en MLS et par exemple signer avec les Red Bulls, eh bien, il faudront que les Red Bulls fassent, même si les Red Bulls et Matt Miazga sont d'accord pour refaire un transfert entre eux, il faudront absolument qu'ils passent par cette liste.
Oui, exactement, parce que les Red Bulls ont transféré le joueur pour une somme importante qui est de plus de 500 000 dollars. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si le joueur était parti gratuitement parce qu'il était en fin de contrat, la situation aurait été différente. Mais là, il revient dans son club, certes, mais comme le club a déjà eu les bénéfices du transfert, c'est considéré par la MLS comme si on repartait de zéro.
D'accord. Et un autre aspect qui est vraiment MLS, je trouve, là, c'est le right of first refusal. En français, c'est le droit de préemption. Ça aussi, c'est vraiment MLS, hein, Mathias?
Ah oui, ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. C'est bien que tu enchaînes là-dessus. Parce que, justement, les joueurs qui sont partis pour rien font partie de cette longue liste. Alors, c'est ça, droit de préemption, ceux qui n'ont jamais entendu parler. Les juristes qui nous écoutent, ils connaissent. Parce qu'en fait, c'est un terme juridique. Les deux, right of first refusal, se traduit dans le vocabulaire juridique par droit de préemption. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça en MLS et non pas une traduction littérale. Et donc, ça, en fait, pour l'expliquer, c'est, comme on dit vulgairement, un club a les droits sur un joueur, même si finalement le joueur n'est pas du tout en MLS et nulle part. Alors, c'est pour quel joueur ça, ce droit de préemption? C'est des joueurs qui sont, justement, comme tu en as parlé tout à l'heure, qui ne sont pas restés en MLS après être arrivés en fin de contrat. Donc, par exemple, on peut penser à Montréal pour le moment où il y a le cas d'Ambroise Yango qui est arrivé en fin de contrat. S'il part pour rien, puisque Montréal n'aura pas touché de somme de transfert, il ne sera pas sur la liste d'allocation, mais Montréal aura un droit de préemption sur lui. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont protégé, c'est pour garder ce droit, en fait, qu'ils l'ont protégé au repêchage d'expansion. Il y a aussi des joueurs qui ont été sélectionnés au Super Draft. Et évidemment, je vais parler de choses, on en parlera plus tard, mais il y a beaucoup de points qui se mélangent. C'est que le droit de préemption, c'est vraiment le deuxième de la liste de recrutement. C'est-à-dire que si un club a un droit de préemption sur un joueur, tout ce qui suit après, en fait, on ne peut pas toucher au joueur parce qu'il y a un droit de préemption dessus. Donc, un joueur qui a été sélectionné au Super Draft, c'est-à-dire c'est une séance de recrutement de joueurs qui sont à l'université, en gros, comme il y a dans les sports américains, NBA, par exemple, et qui n'a pas été signé, qui n'a pas signé au club, mais qui a reçu une offre. Là aussi, le club a un droit de préemption sur le joueur. Il y a aussi un processus de découverte de joueurs, on parlera à la fin. Et là aussi, si un joueur a reçu une offre et que finalement, l'entente ne s'est pas faite, bah le club a toujours un droit de préemption sur le joueur. Donc, ce sont des joueurs qui ne sont pas en MLS, mais sur qui les clubs ont un droit. Et donc, si le joueur veut signer en MLS, le club dit non, 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 les droits du joueur m'appartiennent. Et donc, il faut négocier avec ce club-là pour avoir les droits du joueur. Et nouveau, c'est quelque chose qui change, évidemment.
Donc, c'est des joueurs qui souvent ne sont pas américains ou ont été échangés pour moins de 500 000, c'est ça?
Bah, ça, c'est pour ceux qui jouaient déjà en MLS et qui sont partis comme Oyongo. Mais la plupart de ces joueurs-là, en fait, c'est des joueurs qui n'ont jamais joué en MLS, qui ne joueront jamais en MLS, qui n'y reviendront pas. C'est des joueurs qui étaient à l'université, qui ont été sélectionnés au Super Draft. Le club a fait une offre, puis finalement, il n'y a pas eu d'entente pour une raison ou une autre. Puis le joueur, il va jouer, je ne sais pas moi, en USL ou quelque part ailleurs. Puis, si tout d'un coup il commence à briller dans une ligue inférieure, bah, là le club il dit, ah tiens, bah, en MLS il y a peut-être des clubs qui vont être intéressés, mais le club a toujours un droit sur ce joueur-là. Donc, si le joueur veut revenir en MLS, il doit soit signer dans ce club-là, soit il faut que le nouveau club où il veut signer trouve un terrain d'entente avec le club qui a un droit sur lui.
Et si le joueur ne joue pas aux États-Unis, mais joue en Europe et qu'il veut revenir après, et qu'il avait eu une offre d'un club MLS, et puis qu'il revient après, il joue, disons, des divisions de belges ou françaises, et qu'il revient après, est-ce que là, le droit de préemption joue encore?
Oui.
Ok. Donc c'est un processus assez varié, c'est un truc qui suit le joueur toute sa carrière.
Oui, mais je sais que pour certaines choses, mais là c'est vraiment dans des détails, je suis même pas sûr que c'est publié dans les règlements publics de la MLS, certains droits sont limités en nombre d'années. Mais là on rentre vraiment dans des
Ouais,
détails.
dans les...
Mais oui, ça suit quand même le joueur. Donc, et de nouveau, ça dépend des catégories de joueurs. Mais c'est très haut en tête de liste parce que ça concerne beaucoup de joueurs et finalement, c'est un obstacle. Dès qu'il y a un droit de préemption sur un joueur, finalement, toutes les autres options de recrutement s'arrêtent. Mais honnêtement, en pratique, ça concerne pas grand monde qui va jouer en MLS parce que soit c'est des joueurs qui sont partis qui ne reviendront plus, soit c'est des joueurs qui n'ont jamais signé et qui ne signeront jamais.
Mais on va avancer au prochain point. Est-ce que ces droits de préemption, on peut les échanger?
Oui, ça aussi. C'est arrivé d'ailleurs récemment avec Vancouver et Dallas. Je t'avoue que je ne me souviens plus du nom du joueur, mais en début de saison, c'est ça. Donc je pense que c'est Dallas qui avait un droit de préemption sur un joueur et Vancouver était intéressé par le joueur. Donc ils ont échangé ça. Et donc ce joueur est du côté de Vancouver. Attends, Anthony Blondel.
Donc ça, c'est le Vénézuélien qui a ensuite signé là, pas très longtemps, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, il y avait un autre club, je pense que c'était Dallas, qui avait un droit de préemption sur Anthony Blondel, qui a signé à Vancouver. Et donc, ça a été discuté entre les deux clubs. Et donc, Vancouver a récupéré ses droits et l'a signé.
D'accord.
D'accord, donc là, on parlait d'échange. Tu voulais parler des échanges et des périodes de transfert nationaux, internationaux, comment ça marche la MLS avec
Oui,
les
ça,
autres.
après ces concepts un peu plus compliqués, on va arriver dans, je pense, celui qui est le plus simple pour tout le monde, c'est les échanges. Donc tout ce dont on parle maintenant peut s'échanger, notamment les joueurs. Et donc ce qui arrive de plus en plus en MLS, c'est que les joueurs sont échangés contre des montants qui sont souvent des montants d'allocation monétaire, soit l'allocation monétaire de base ou ciblée. Ça, je sais pas si on aura le temps d'en parler après, ou si ce sera le cadre d'une autre explication à un autre moment. Et donc bah, c'est simple, c'est que là on parle vraiment des arrivées de joueurs. Je pense que c'est vraiment le thème principal de l'émission. Et donc, bah, on peut échanger un joueur comme on le voit assez régulièrement en MLS, que ce soit contre d'autres joueurs, contre l'argent, etc. La seule chose qui est importante à savoir là-dedans, c'est qu'il y a des périodes. Alors, il y a une période de transferts internationaux durant laquelle on ne peut pas recruter, bon, qui est la seule, en fait, durant laquelle on peut recruter des joueurs à l'étranger. Et depuis quelques saisons, la MLS a décidé d'harmoniser la période d'échange de joueurs avec cette période de transfert international. Donc, un club de MLS ne peut recruter un nouveau joueur ailleurs en MLS ou à l'étranger qu'aux mêmes dates. Et c'est un petit peu plus facile. Ah, est-ce qu'on est à la période de transfert international ou est-ce qu'on est à la période de transfert interne à la MLS? Est-ce qu'on est... Non, là, c'est tout est au même moment et c'est beaucoup plus facile à suivre.
Aussi, une chose qui est très MLS, c'est le fait que les joueurs sont obligés de subir ces échanges. Ils peuvent, enfin, on pense à Laurent Simon qui était assez triste de partir à Montréal. Ils n'ont pas le choix.
Exact.
C'est un truc qui n'est pas la même chose qu'en Europe.
Ouais, c'est vrai parce que en fait, quand un joueur signe son contrat, il signe, oui, avec l'équipe, mais surtout, il signe avec la ligue. Donc, le joueur appartient en sorte à la ligue, donc il peut aller n'importe où sans qu'il soit avisé, là.
Oui, mais corrigez-moi si je me trompe, quand un joueur signe en NFL, en NBA ou même en hockey ou en baseball, il signe avec le club et non pas avec la ligue, puis il peut être échangé sans avoir son mot à dire non plus.
Je t'avoue que je ne suis pas trop les autres ligues US.
Ouais.
Un peu.
Je suis pas certain également, là, donc.
Mais en tout cas, par rapport à l'Europe, ouais, c'est un truc qui est différent. Tu voulais aussi parler de joueurs libres. Donc ces joueurs libres seraient, par contre, ils sont en contrat avec la ligue, mais n'ont pas de franchise avec lesquelles signer.
Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que là, on a parlé de joueurs qui sont soit qui viennent de l'étranger, soit qui sont sous contrat, soit sur lesquels un club a un droit. Alors après, à un moment donné, bah, il y a des joueurs qui arrivent en fin de contrat. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand un joueur arrive en fin de contrat? En Europe ou en fait dans le reste du monde, c'est facile, le joueur est libre. Point final. Là, c'est un petit peu différent. C'est que les joueurs libres issus d'un club de MLS, un jour en fin de contrat où il y a une option et l'option n'est pas levée, ben, eux, ils ne sont pas vraiment tous libres. Il y a seulement une seule catégorie de joueurs qui est réellement libre, c'est-à-dire qui peut négocier avec le club de son choix. Et ce sont les joueurs qui ont au moins 28 ans et qui ont au moins 8 ans de service en MLS. Et donc ceux-là, ben, ils peuvent négocier finalement avec qui ils sont vraiment libres comme un joueur en fin de contrat en Europe ou ailleurs. Les autres ne le sont pas et là, c'est des choses qu'on va détailler par la suite.
Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup, j'imagine, des joueurs de plus de 20 ans et 8 ans de contrat. Ça va être assez. Enfin, pour tous les autres, comment ça marche?
Ben, pour les autres, comment ça marche? Là, de nouveau, on a trois catégories de joueurs. Donc on a les joueurs libres et ensuite on a la première catégorie qui est, on va dire, donc les joueurs libres, vous comprenez que c'est un peu l'élite. Après, on a, je fais ça la classe moyenne, des joueurs qui peuvent être repêchés, donc dans le repêchage ou le processus de repêchage. Il y a lieu, ce qu'on appelle le re-entry draft en anglais, dont la première, ça se passe en deux étapes. La première étape a eu lieu vendredi 15 décembre, la deuxième, c'est le vendredi 22 décembre. Et ça, c'est pour les joueurs qui ont plus de 23 ans et plus de 3 ans d'expérience en MLS.
Est-ce que tu as des exemples de joueurs qui ont été repris pendant cette re-entry draft?
Oui, à un moment donné, DC United s'est complètement renforcé, et notamment en allant chercher Fabian Espindola. Pour Montréal, je pense aussi à Hassan Agnassi quand il est parti de Montréal. C'est comme ça qu'il a été recrutés par San José.
D'accord.
Donc c'est ça, c'est des joueurs qui ont quand même un petit nom en MLS sans être des vétérans.
Et les joueurs, parce que souvent dans ce repêchage-là, il y a peut-être une dizaine de joueurs qui vont être pris. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres?
Oui, ça, c'est autre chose. Donc, déjà, je vais expliquer comment se passe ce repêchage. Lui, c'est une liste. Donc, tous les clubs ont un ordre. Et chacun dit, je veux un joueur ou oh, non, j'en veux pas. Puis après, quand tous ceux qui ont choisi, ils peuvent encore en choisir un autre. Après, jusqu'à ce que tout le monde ait passé son tour. Et ce repêchage se passe en deux étapes. La première étape, le joueur arrive avec son contrat. Lors de la deuxième étape, le club et le joueur peuvent renégocier les termes du contrat. Donc ça c'est un petit peu différent, c'est pour ça souvent qu'il y a plus de joueurs qui sont choisis à la deuxième étape qu'à la première, mais ça reste quand même des noms intéressants. Mais de nouveau, de saison en saison, on voit, à part des clubs qui misent vraiment beaucoup là-dessus, ou alors le fait que il y ait des joueurs très intéressants qui soient sur la liste, mais la plupart du temps quand même les clubs passent leur tour. Alors là, les joueurs qui sont pas choisis, ils deviennent à la disponibilité de tous les clubs de MLS et on se retrouve sur une base finalement du premier arrivé, premier servi.
Et après, il y a la troisième phase de joueurs libres, ce sont les joueurs qui, j'imagine, ont moins de 23 ans ou moins de 3 ans en MLS.
Ouais, exactement. Et ça, c'est la liste des joueurs disponibles, mais je voudrais en parler après parce que il y a pas seulement ces joueurs-là qui sont sur cette liste-là. Il y en a d'autres et je voudrais parler des autres éléments avant, justement, pour que les gens aient une vue complète sur ça.
Et donc, tu parles des homegrown players, c'est ça?
Ouais, exactement, des joueurs formés au club. Donc, de nouveau, ça, c'est assez simple. Quand un joueur a rempli certaines conditions en évoluant dans les équipes de jeunes du club, qui sont des conditions quand même très faciles à obtenir. Hein. Faut jouer un an au club et... avoir un certain nombre d'heures d'entraînement, on est très loin, par exemple, des conditions de l'UEFA pour être considéré comme un joueur formé au club ou formé dans l'association nationale où il faut être au moins pendant 3 ans, remplir des conditions pendant 3 ans. Et donc, ces joueurs-là, s'ils ne sont pas sur une des listes précédentes, ce qui est quand même très rare puisque ce sont des jeunes, ils peuvent être recrutés par le club. Sans passer par le super draft qui viendra après, sans rien. Donc là, il y en a plein, évidemment. On ne va pas faire la liste complète des joueurs formés au club.
Dans les plus connus, on peut dire Jesse Zardes, qui est sûrement l'un des plus connus et qui a un peu été libéré par Los Angeles.
Exactement, il y a Jesse Zardes à Los Angeles. Ici, à Montréal, il y en a pas mal, que ce soit Maxime Crépeau ou James Pantemis, les gardiens, par exemple.
Et d'ailleurs, je trouve que c'est bien que la MLS mette de l'avant les joueurs formés au club. Là, on fera pas un débat sur les espoirs et tout, mais je trouve que c'est vraiment bien que la MLS mette l'emphase sur ces homegrown players-là, que même les clubs soient avantagés avec ce genre de joueurs dans les expansion draft et tout. Là, donc, c'est vraiment intéressant.
Oui, c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est quand même encore assez récent, les écoles de jeunes en MLS. Donc, j'ose espérer, mais ça, c'est vraiment un vœu personnel, que les critères dont on parlait tantôt vont se resserrer, ou alors qu'on va avoir deux catégories de joueurs formés au club, des joueurs qui remplissent ces catégories-là, et puis d'autres qui remplissent des catégories peut-être un petit peu plus strictes, et qui, eux, donneraient encore davantage de façons différentes à leur club. Je donne un exemple, évidemment, c'est un truc qui est dans ma tête et seulement dans la mienne, mais imaginons qu'un joueur formé au club qui a été, durant ses 3 dernières saisons avant de signer en MLS, dans le club directement, donc en équipe réserve ou en équipe de jeunes, à ce moment-là, lui, il a un statut, on va dire, joueur formé au club senior, comme aiment bien dire les Américains, avec les statuts junior et senior, et que lui, par exemple, il ne compte pas dans le budget salarial du club, et que si un jour, et qu'il ne compte finalement dans aucun règlement, que si un jour il devient joueur désigné, parce que c'est une grande vedette, il ne compte pas comme joueur désigné, il compte, et vous imaginez l'énorme avantage que ça pourrait procurer.
Oui, en effet. Mais par exemple, il y a des jeunes joueurs qui sont des fois même meilleurs que ces homegrown players-là, mais qui n'ont pas eu la chance d'être formés dans une académie MLS. Ils sont souvent repêchés lors du Super Draft.
Ouais, exactement. Et eux, ils sont recrutés au Super Draft. qui est en fait la séance du début de l'année où on ouvre surtout les portes aux joueurs qui ne sont pas encore professionnels et qui sont inscrits dans les universités américaines. Parce qu'il y a quand même encore. En fait, au départ, à la base, en MLS, il n'y avait pas d'équipe de jeunes. Il y avait juste l'équipe première. C'était pas des clubs, c'était des franchises avec des équipes, des machins comme ça. Maintenant, ça s'est développé, c'est devenu des clubs à part entière. Mais il y a quand même encore beaucoup de joueurs qui évoluent en NCAA. Et ceux-là, donc, s'ils n'ont pas joué pour une équipe de jeunes et qu'ils ne remplissent pas les critères de joueurs formés au club, ils passent par le Super Draft pour être recrutés. La plupart de ces joueurs, c'est des joueurs qui ne sont plus admissibles pour jouer dans le championnat universitaire, mais il y a aussi des joueurs ce qu'on appelle génération Adidas. Et ça, c'est les meilleurs joueurs des universités qui n'en sont pas encore à leurs dernières années d'études, mais que la MLS considère comme déjà prêts, ou que des clubs de MLS considèrent comme déjà prêts à entrer en MLS. Donc, eux, ils reçoivent une bourse aussi qui leur permettra de finir leurs études. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, c'est un peu le système américain, hein, ils reçoivent une bourse pas pour étudier, mais pour faire du sport. Et à côté de ça, ils remplissent des études. Mais s'ils jouent en MLS, ils ne jouent plus dans leur équipe universitaire. Donc, la bourse, ben, ouais, mais tu joues plus pour t'as plus ta bourse, mon garçon. Hein. Et donc, ça, c'est compensé par le système Génération Adidas. Et ce système Génération Adidas aussi, il va chercher quelques espoirs des équipes nationales américaines qui ne sont pas forcément en NCAA. Parfois, tu en as qui sont pas encore à l'âge d'aller à l'université, mais qui ont déjà peut-être le niveau pour jouer en MLS. Et donc, ces joueurs-là, ils reçoivent aussi ces bourses et ils peuvent aussi être recrutés via le Super Draft. Et ils ont évidemment un statut spécial, ces joueurs-là. Et comme c'est des talents précoces, on en parle déjà avant le début de l'année, avant le Donc là, sont déjà parmi les favoris pour être recrutés en premier.
Un truc qui est important juste pour que nos auditeurs comprennent pourquoi il y a une super draft, parce que c'est quand même un truc qu'on n'a pas eu tout en Europe, et ça pourrait paraître bizarre de ne pas être formé au club. C'est juste aussi que c'est quelque chose de culturellement très américain, et que tous les autres sports américains des grosses ligues ont le même système de formation de joueurs, c'est-à-dire que les joueurs vont à l'université pour être formés et rentrent dans les ligues après via des super drafts.
Oui, parce que dans les autres championnats, les clubs n'ont pas leurs équipes de jeunes.
Une question sur un joueur, étant pour Seattle, il y a l'exemple Jordan Morris, qui lui a été formé à Seattle, puis est parti à l'université, a joué la NCAA, puis a été choisi dans la Super Draft. Est-ce que pour lui, il y avait par exemple une sorte de droit de péremption ou une sorte de droit de priorité pour Seattle, vu qu'il avait fait ses classes de jeunes au club?
Ça, c'était une histoire un petit peu compliquée. Je me souviens qu'il y avait des gros débats sur est-ce qu'il peut signer comme joueur formé au club ou est-ce qu'il doit passer par le Super Draft. Je t'avoue que je me souviens plus
Au
exactement
final,
les
il a
détails.
signé comme homegrown player.
Exactement.
Mais il a quand même été pris via, je crois, la Super Draft.
Ouais, mais justement, c'est pour ça qu'on a abordé ces sujets-là dans cet ordre-là, parce que on disait en début d'émission que tout ça concerne un ordre de recrutement. Et le cas de Jordan Morris que tu évoques est une réponse claire à ça, puisque un joueur formé au club ne doit pas passer par le Super Draft, puisqu'on a évoqué d'abord les joueurs formés au club et ensuite le Super Draft. Et donc, Morris répondant aux critères de joueur formé au club, ben, on s'arrête là et lui rentre dans cette catégorie-là. Et les catégories suivantes, finalement, ne le concernent plus.
Même s'il fait une carrière universitaire
Ah,
pendant quelques années avec
exactement.
Stanford. Ok. Et est-ce que tu as des exemples de joueurs qui seraient passés par cette génération Adidas justement, parce que la série est plutôt récente?
Il y a Jack Harrison de New York City, par exemple, qui lui, oui, il est anglais, mais il est arrivé aux États-Unis, il étudiait là. Il y a Christian Roldan. Il y a donc ça, c'est des noms un peu connus qui ont été recrutés récemment. Du côté de Montréal, il y a eu Eric Miller, qui lui, je pense, avait encore une année d'études à faire. On se souvient ainsi, par exemple, à Montréal, il y en a un qui est quand même très très connu, c'est Andrew Wenger. Qui lui continuait ses études parallèlement à son arrivée à l'Impact, puis postait régulièrement d'ailleurs des travaux, parce qu'il faisait des travaux sur le soccer. Et donc, il postait certains extraits de ses travaux sur le site de son université. Et les supporters de Montréalais, il y en a qui suivaient un petit peu ça sur Internet.
Donc c'est quelque chose qui marche bien en tout cas. Au vu des noms évoqués, c'est plutôt une bonne chose.
Bah, c'est une bonne chose, surtout dans la mesure où on se rend compte de plus en plus que si tu attends la fin de tes études, donc tu arrives à jouer en MLS à 22-23 ans, c'est qu'à un moment donné, la plupart des joueurs, jeunes joueurs de MLS avaient cet âge-là. Regarde dans tous les grands championnats, si tu veux être dans les meilleurs championnats au monde, si tu es plus jeune joueur, tes plus jeunes talents ont déjà 22-23 ans, alors qu'ailleurs ils en ont 17-18.
17, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc, tu as vraiment beaucoup de retard à l'allumage. Si tu commences à être pro à 22-23 ans, moi je me souviens quand j'étais jeune, j'étais en Belgique, puis mes amis qui avaient des espoirs d'être pro, eux ils disaient, si je suis pas pro à 22-23 ans, c'est la limite. À ce moment-là, bah, j'arrête et j'abandonne mes rêves. Donc c'est l'âge où dans d'autres pays on abandonne, alors qu'ici c'est l'âge où on commence.
C'est comment sont sélectionnés les joueurs qui sont dans la Super Draft, les joueurs des universités, parce qu'ils sont pas tous pris, j'imagine.
Non, c'est pas. Alors, de plusieurs façons, mais au bout du compte, ça revient au même. Ils sont sélectionnés par les clubs et par un recruteur interne à la MLS. Et notamment, lors de l'évaluation annuelle, il y a une évaluation annuelle de joueurs qui se tient, ce qu'ils appellent en anglais le combine, qui se tient quelques temps avant ça se tient en début janvier, et le Super Draft est mi-janvier. Et à ce moment-là, bah, les clubs regardent les joueurs et disent, tiens, bah, ces joueurs-là sont intéressés, sans, ils ont le niveau, etc. Ils pourraient. Donc à ce moment-là, bah, il y a une liste qui est dressée de joueurs qui sont admissibles au Super Draft. En plus des
D'accord. Et c'est pas le
joueurs qui sont
même numéro, c'est pas le même nombre de joueurs chaque année.
Je t'avouerais que je ne sais pas, mais je pense pas, non, ça me surprendrait. Mais ça tourne toujours plus ou moins autour de la même chose. De toute façon, il en faut assez pour sélectionner tout le monde. Il n'en faut pas trop, sinon ça sert à rien. On sait qu'il y aura beaucoup de déçus, mais je pense que bon, bah, les clubs dressent leur liste, puis en fonction peut-être aussi de qui se retrouve sur la liste de tous les clubs. Donc forcément, ça fait qu'il y a plus de doublons et un total plus bas. Puis c'est ça, mais c'est vraiment des entraîneurs, des techniciens de la MLS et des clubs qui restent une liste de joueurs qui sont potentiellement intéressants et donc qui pourront être recrutés par celui-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que les joueurs qui sont au Super Draft, une année, comme c'est après la fin de leurs études, bah, l'année suivante, ils n'y sont plus, puisqu'ils ne sont plus à l'université. Donc, ils sont à passer à travers cette clause-là et donc ça réduit leurs chances d'être recrutés.
Tout ça nous mènerait à la waiver draft, il me semble.
Exactement. Et donc là, on se retrouve avec notre fameuse liste des joueurs disponibles dont tu voulais parler tout à l'heure, donc qui concerne, entre autres, les joueurs qui n'ont pas assez d'expérience ni pour être libres, ni pour passer par le repêchage. Et donc, ils se retrouvent sur cette liste de joueurs qui concernent aussi en cours de saison les joueurs qui ont été écartés par leur club. Donc tu vois un petit peu, c'est vraiment les joueurs dont plus personne veut et qui n'intéresse pas énormément de monde. Tu as aussi des joueurs universitaires qui, mais ça c'est très rare, c'est vraiment l'exception exceptionnelle, mais c'est prévu par le règlement, qui étaient absents du Super Draft, mais que la Ligue estime mûrs pour un contrat MLS, mais qui, je sais pas, ils ont oublié de s'inscrire ou on ne sait pas trop quoi. Et donc voilà, il y a aussi d'anciens joueurs de MLS sur qui l'équipe a un droit de préemption dont elle décide de pas se prévaudre et de pas se prévaudre, de pas se prévaloir, pardon. Et qui dit, bon ben, j'en veux pas de mon droit sur le joueur, donc le joueur se retrouve là-dessus, sur cette liste-là aussi. Tu as des joueurs qui ont été sélectionnés au Super Draft, mais qui ont reçu aucune offre d'un club. Donc eux, ils se retrouvent sur cette liste-là aussi. C'est ce finalement. C'est la dernière étape de tout. Donc, c'est vraiment. Je vais pas dire que c'est méchant, mais c'est le bas de la liste, quoi. Tantôt, on parlait de haut de gamme, de classe moyenne, et là, on se retrouve avec un peu plus de bas de gamme, quoi.
Et ça s'est passé il n'y a pas longtemps, puisque par exemple Montréal a acquis Clément Diop via ce draft.
Oui, exactement. Alors Clément Diop, lui, c'est ça qui est un peu particulier lors de cette séance-là, c'est qu'en fin de saison, il y a les joueurs qui sont arrivés en fin de contrat et qui ont très peu d'expérience en MLS, mais qui peuvent quand même avoir fait leurs armes d'une autre manière, pas en club, Mais généralement, c'est plutôt avec une équipe nationale. Et donc, Black Lemi Diop est quand même international sénégalais. Il était toujours repris pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et donc, c'est comme ça que Montréal a réussi à le recruter. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu pour le moment le défaut du système, vu que la MLS regarde juste dans sa cour. C'est que tu as des joueurs qui sont jeunes et qui ont quasiment aucune expérience en MLS, mais qui ont un statut, on va dire, entre guillemets, exceptionnel pour cette liste de joueurs disponibles. Et bon, de temps en temps, il y en a un, mais bon, de nouveau, c'est rare. Et là, il faut vraiment dénicher la perle rare en se disant, personne veut lui, mais pourquoi ils se trompent tous? Moi, je vais vous dire que.
Ouais.
Mais bon, c'est rare. Et ça arrive aussi en saison, hein. Donc là, tu dis ça a eu lieu récemment, mais quand un club écarte un joueur en cours de saison, il y a aussi un appel conférence pour dire ouais, qui en veut ce joueur-là.
J'allais dire, cette année, il n'y a que deux joueurs qui ont été pris pendant cette wave draft. Donc, est-ce qu'il y a, enfin, est-ce que c'est quelque chose du coup qui est assez utile ou c'est juste parce qu'il faut le faire?
Oui, c'est parce qu'il faut le faire, parce que de nouveau, vu que c'est le dernier élément en bas de la liste, c'est tous les joueurs. Finalement, qui entre guillemets appartiennent à la MLS ou veulent jouer en MLS, vu qu'ils ne sont pas libres, puisque le processus pour les joueurs libres, on l'a expliqué, ils n'ont pas le droit de négocier avec qui ils veulent. C'est les clubs qui gouvernent finalement, qui décident qui joue chez eux ou non. Et donc, il faut bien un processus pour que les clubs décident s'ils veulent de ces joueurs ou non. Donc, finalement, c'est le reste, quoi. C'est le reste du paquet.
Il y a une liste, il y a un ordre pour cette waiver draft aussi.
Oui, bah un ordre de sélection, oui, exactement. Mais généralement, je vais pas les faire pour chacun parce que parfois ça diffère un petit peu. Mais généralement, l'ordre de sélection, c'est les derniers du classement qui choisissent en premier et inversé.
On serait rendu à la fin de la liste, la Discovery List. Est-ce que c'est ton dessert? Est-ce que c'est pour ça que tu l'as mis en dernier?
Non, parce que là, on se dit, ah, bah tiens, on a tout. On a tout pour tous les joueurs qui disent pourraient jouer en MLS, ouais, mais si Messi veut jouer en MLS, tu crois que c'est au club de l'appeler et dire hey, Lionel Messi, tu viens jouer en MLS? Eh non, c'est pas aussi facile que ça. C'est que chaque club a une liste qui s'appelle la liste de découverte de joueurs. C'est le processus de découverte de joueurs, même si je pense pas que découvrir Messi soit vraiment le terme.
Un exploit.
La MLS l'appelle comme ça. Et donc, si la MLS veut recruter un joueur qui n'entre dans aucune des catégories dont on a parlé précédemment, il doit le mettre sur une petite liste et fournir sa liste à la MLS. Et évidemment, il arrive de temps en temps qu'un joueur soit sur plusieurs listes. On l'a vu notamment avec Didier Drogba, qui était sur la liste de Montréal et sur la liste de Chicago. Et là, c'est le club, pardon, qui a été le premier à dire, moi, je veux ce joueur-là, qui est prioritaire. Donc c'est pour ça que Montréal a dû céder un certain montant à Chicago, puisque Drogba voulait jouer à Montréal, mais c'est Chicago qui était prioritaire. Alors quand c'est des grands noms voilà, comme ça, là, on en parle beaucoup, mais parfois il arrive, c'est une histoire de scouting, que des clubs soient sur le même joueur totalement par hasard, ils ne se rendent pas compte. Et donc là, de nouveau, la MLS donne une priorité. De nouveau, c'est le club qui a les droits davantage que le joueur. Donc c'est pas le club qui va être le plus séduisant. Envers le joueur qui va forcément aller le chercher. Bah, si, c'est peut-être là que le joueur va jouer parce que c'est là qu'il voudra jouer, mais le club qui a été
Ouais.
le premier à le découvrir va quand même avoir une compensation.
Et c'est une liste que tu donnes chaque année?
Ça, c'est une liste qui vit en tout temps. Donc, il y a un certain nombre de joueurs sur cette liste. Je pense que c'est 7, mais ça change d'une saison à l'autre. Donc, il faudrait vérifier pour cette saison. De toute façon, ça va peut-être changer pour 2018. Et donc, la MLS a en permanence la liste de joueurs, du processus de découverte de joueurs de chaque club. Elle sait quand tel joueur a été inscrit sur la liste. Et évidemment, bon, quand il y a un joueur qui ne t'intéresse plus, tu l'enlèves, tu peux le remplacer par un autre quand tu veux. Et tu ne peux recruter finalement en dehors de MLS et de tous les processus écrits avant qu'un joueur qui est sur cette liste-là.
Donc j'imagine que par exemple Ibrahimovic, comme il y avait pas mal de rumeurs sur lui, doit être sur la liste depuis 2-3 ans de plusieurs clubs.
Oui, sauf que vu que la liste est limitée,
Ouais.
ouais, mais il prend peut-être la place de quelqu'un d'autre. Donc, quand tu as un club comme il y a eu par exemple Chicago qui a pas mal recruté en Europe depuis l'arrivée de Paunovic, comme peut-être Montréal si Rémy Garde veut beaucoup recruter à l'extérieur des frontières américano-canadiennes, comme d'autres qui recrutent beaucoup à l'étranger, ce qui se fait de plus en plus en MLS, tu as intérêt à faire gaffe à ta liste parce qu'une place, elle peut valoir cher aussi. Et je vais peut-être prendre un exemple. Je ne sais pas s'il était sur la liste depuis 2 ou 3 ans, mais Vasquez, qui est à Toronto maintenant, lui, peut-être qu'il était sur la liste depuis longtemps, parce qu'ils l'ont trouvé depuis longtemps, mais il savait qu'il le voulait vraiment. Donc, ils se libèrent. Lui, on va le garder parce qu'on sait qu'on le veut. Ibrahimovic, c'est quand même un gros pari, parce que si tu es Kansas City, je ne suis pas sûr qu'Ibrahimovic voudra venir à Kansas City. Donc, est-ce que tu veux la compensation que le club qui va le recruter aura, ou est-ce que tu préfères justement avoir un autre joueur sur ta liste que tu dis, bah, s'il y a un autre club qui est intéressé, qui va aller me le piquer, là, lui, je ne veux pas me le faire piquer parce que j'ai des chances de le faire jouer ici.
Est-ce que le joueur doit forcément être sur la... Si c'est un joueur donc, qui joue en Europe, par exemple, est-ce que le joueur doit forcément être sur la liste pour pouvoir signer avec le club?
Oui.
Ok, donc c'est-à-dire qu'ils doivent modifier leur liste, disons, 24 heures avant le transfert pour pouvoir faire le transfert, si c'est un gars qui n'est pas forcément super connu.
Par exemple. Ou alors, dès qu'ils le suivent, hein, de nouveau, parce que bon, bah, ça se parle et tout, donc tu veux peut-être le signer. Donc, plus tu es sûr qu'un joueur... plus tu es sûr que tu veux un joueur, plus tu te dis, bon, bah, lui, je vais le mettre sur ma liste, je vais en enlever un autre, et puis voilà, quoi.
Et toi, Mathias, est-ce que tu es pour cette liste-là? Est-ce que tu trouves que ça restreint un peu la compétitivité d'attraction pour les équipes? T'en penses quoi de cette liste?
Bah, honnêtement, j'en pense pas grand-chose. D'ailleurs, je trouve que c'est un processus original qui est typique d'un championnat fermé comme la MLS, où il y a des règlements absolument pour tous les systèmes de recrutement. Donc forcément, pour recruter les autres joueurs, il y a y avoir un règlement. C'est celui-là. Honnêtement, c'est quelque chose, on ne parle pas beaucoup de cette dynamique-là. On entend rarement des managers ou des directeurs de clubs dire « Ah, c'est compliqué » ou « Oh, c'est simple » ou « Oh, c'est intéressant parce que ça nous permet ceci ou cela » ou « Oh, franchement, il faudrait s'en débarrasser ». C'est vraiment un sujet dont on ne parle quasiment jamais, à part au moment où Drogba a été recruté par Montréal et qu'il a fallu verser un dédommagement à Chicago. Mais là, on était dans les technicalités qu'on vient d'expliquer. Mais le sens pratique et les avantages ou les inconvénients de cette liste-là, on entend rarement les clubs en parler. Donc, c'est un peu difficile de voir si c'est bien ou si c'est pas bien.
D'accord.
Donc, je pense que là, on serait arrivé à conclure. Donc, c'est où qu'on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux, Mathias?
L'idéal, c'est sur Twitter, @MLS.
Et on rappelle que ouais, tu écris pour le site officiel de la MLS, mais en français. Parce que le site est en 3 langues différentes.
Ouais, la MLS est trilingue, anglais, espagnol. Donc, écrit en français, entre autres, sur le site de la MLS. Je ne fais pas que ça d'ailleurs pour eux, mais en particulier, on a des réseaux sociaux. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aussi chercher la page des animateurs de l'émission. Il y a aussi des informations qui sont complètement souvent les mêmes que celles qu'il y a sur Twitter. Mais bon, il y a des gens qui préfèrent communiquer par Facebook. Donc, abonnez-vous là aussi.
En tout cas, on te remercie énormément d'être venu, parce que la MLS est quand même un championnat assez compliqué à comprendre quand on n'est pas américain, et c'est vraiment un fonctionnement très différent, donc merci énormément.
J'espère que pour vous, ça a clarifié certaines choses aussi.
Ah, c'est oui. Clair.
C'est que si ça vous a clarifié des choses, je pense que pour les auditeurs aussi, vous êtes entre guillemets le représentant, et donc
exactement.
Questions sont vos questions, donc si j'ai réussi à nous faire comprendre certaines choses, j'ose espérer que les auditeurs comprennent mieux aussi, et tant mieux, c'est l'objectif, parce que plus on comprend, plus on a envie de suivre, plus on apprécie.
Et puis comme c'est des choses qui sont toujours échangées contre, toujours les transferts échangés contre ce genre de termes techniques, ça sera beaucoup plus simple de suivre l'évolution de son club grâce à cette petite explication.
Exactement.
Toi, Antoine, c'est où qu'on peut te retrouver?
Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @AntoineLatran, et les articles qui sont sur Lucarne Opposée, où vous pouvez aussi trouver ce podcast, ainsi que tes articles, Antoine.
En effet, et vous pouvez me retrouver sur Twitter à AnthonyMLS. Donc, également, je vais faire un petit coup de pub pour Lucarne Opposée. Ben, notre podcast est dessus, d'ailleurs, depuis tout récemment. Le magazine numéro 1 est encore disponible, donc n'hésitez pas. C'est un très beau cadeau d'après Noël, puisque toutes les livraisons vont être passées. Même, je pense que l'épisode va être diffusé après Noël. Donc, c'est un beau cadeau du mois de janvier.
Est-ce que le magazine de Lucarne Opposée peut être facilement commandé quand on réside au Québec ou en Amérique du Nord?
Oui, c'est avec l'offre Europe. Vous avez juste à commander avec l'offre Europe, qui est une offre un petit peu plus dispendieuse, mais c'est pour les personnes hors France.
Et il y a un super article sur Beckham, sur MLS.
Effectivement, l'impact que Beckham a eu sur la MLS. Donc, merci encore, Mathias. Et,
avec plaisir.
Et à la prochaine.
On vous retrouve à la prochaine émission. Ouais. À la prochaine, tout le monde.